Youri Chassin, vous êtes moins ben, c'est-à-dire, vous êtes sûrement familier avec les pensées de Jim Stanford, qui est assez connu dans le monde des économistes, hein?
Pas nécessairement avec la sienne, mais évidemment, ce discours-là représente un discours qui est entendu là, fréquemment sur la place publique.
Oui. Et là, en lisant, est-ce que vous avez un peu la même perception que Éric Pinault? Est-ce que ça s'adresse à un très large public? Et est-ce que c'est un cours d'économie accessible, clair et concret?
Il y a une volonté claire de vulgarisation hein, de l'économie, puis effectivement, on en parle beaucoup dans le livre. Là, l'auteur mentionne, par exemple, qu'il y a beaucoup de mots techniques qui sont utilisés, qu'on confond, par exemple, justement, l'économie et la finance. Donc, il y a vraiment une volonté d'expliquer l'économie, ce qui est tout à fait louable, évidemment. L'Institut économique de Montréal, on fait ça, donc on ne s'insurge pas du tout contre la volonté de vulgariser l'économie. En même temps, il faut savoir que pour bien vulgariser l'économie, il faut bien la comprendre. C'est là, dans le fond, quant à moi, le problème de fond, là, il y a vraiment des problèmes de conception, des erreurs ou des distinctions qui n'ont pas lieu d'être.
C'est justement une des qualités du livre, c'est que on a ici la parole de ces Cassandres qui depuis 10 ans nous disaient, écoutez, c'est pas viable le système actuel. Ces Cassandres-là, c'était des écoles d'économistes qu'on qualifie d'hétérodoxes, qu'on n'entend pas souvent. Les Dean Baker aux États-Unis, les gens héritiers de Keynes, qui sont des économistes comme Marc Lavoie à l'Université d'Ottawa, comme Mario Saccariccia, des gens qui sont des économistes patentés, mais qui malheureusement ont un paradigme différent du paradigme dominant. Or, ces gens-là ont resté très longtemps dans leur petite bulle, dans leur tour d'ivoire. Et tout à coup, là, on a quelqu'un qui sort et qui dit, regardez, je vais essayer d'expliquer notre vision qui est très différente de la vision que vous avez à l'Institut.
Monsieur Chassin, vous parlez d'erreurs de lecture.
C'est pas des erreurs, c'est une conception
différente.
C'est une
autre lecture. Est-ce que vous admettez la possibilité que ce soit une autre lecture des mêmes réalités?
En fait, Monsieur Pinault le mentionne, hein, l'auteur parle que l'économie cherche à se rapprocher d'une science pure, un peu comme la physique. Effectivement, il y a cette volonté un peu keynésienne, là, de tout expliquer avec des mécanismes très, très mécaniques, justement, où on fait varier tel levier, puis ça produit tel résultat. Ce à quoi, dans le fond, effectivement, j'adhère peu ou pas du tout, en fait. Ceci étant dit, il y a clairement une science économique. Puis dans ce livre-là, il y a un rejet de la science économique. Et puis là, on peut en débattre beaucoup, mais évidemment, c'est ça un peu l'intérêt aussi de vulgariser.
Attendez, vous dites, Youri Chassin, que l'économie, c'est une science?
Oui, en fait, qu'il y a vraiment un certain nombre de théories. Il y a une confusion, d'ailleurs, entre la théorie puis la valeur normative, là, ce qu'on cherche à promouvoir.
Je vais
juste essayer
dominant.
De finir mon idée. L'idée étant vraiment qu'il y a dans la science économique un certain nombre de théories qu'on peut aller, on peut
presque prouver.
Donc, et c'est
ça
la
montrer mathématiquement.
Donc, qu'on peut aussi prouver fausses. Et c'est ça le cœur de la science, c'est-à-dire que si elles sont fausses, si elles expliquent mal la réalité qu'on observe, la réalité de tous les jours, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va trouver une explication alternative.
Comme par exemple, Jim Stanford au Canada anglais était très important dans le débat sur le lien entre les baisses d'impôts aux entreprises que M. Harper a données et l'augmentation de l'investissement et le bien-être collectif. Il a montré, il a fait une très bonne étude que vous ne connaissez peut-être pas, qui a été parue, qui a été très discutée au Canada anglais, où il a dit, regardez, ce lien-là, il est faux. Et il a pu faire ça à travers la lecture qu'il a développée de l'économie, qui est une lecture où les marchés ne sont pas toujours efficients.
Tout en recommandant une baisse d'impôts des entreprises, ça c'est intéressant.
De certaines entreprises, c'est-à-dire le secteur des PME et les entreprises innovantes.
Mais Éric Pinault, ça veut dire que Jim Stanford lui-même reconnaît qu'il y a une science, puisqu'il peut réfuter.
Il reconnaît que c'est une science dans laquelle il y a une pluralité de points de vue,
c'est
comme
ça.
Les autres sciences sociales. On n'est pas en physique ici, on n'est pas devant des particules qui traversent l'espace. On est devant des sciences sociales qui se caractérisent par le fait qu'elles partent d'un point de vue politique et moral. Et lui le dit, moi j'ai un point de vue politique. Or, la majorité des économistes ne reconnaissent pas qu'ils partent d'un point de vue politique et moral.
Ah, ça, c'est intéressant. Youri Chassin, de votre côté, vous partez aussi d'un point de vue politique et moral ou pas?
Ben, en fait, j'ai un point de vue politique et moral, clairement. Puis, je pense que ça, on peut le reconnaître. Il y a tout un débat, évidemment, science, quant à l'objectivité. Est-ce qu'on peut être complètement objectif? J'ai effectivement mes idées, mes conceptions. Ceci étant dit, au-delà de ces idées-là, il y a des réalités qu'on peut exprimer, qu'on peut mesurer. Puis, c'est là, dans le fond, où la science intervient, où on essaie d'avoir le moins de biais possible. Puis, si on a un biais, il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui devrait le détecter et venir le corriger.
Ou qu'on rend explicite nos hypothèses de départ. Si on fait l'hypothèse de départ que les marchés ont toujours raison, comme le font les néoclassiques, eh bien, ça donne les résultats attendus.
Et Stanford exprime d'ailleurs qu'effectivement, il y a des points de vue. Il ne le dit pas vraiment clairement. C'est vraiment une vision, une analyse néo-marxiste de la société avec la même, par exemple, importance au travail.
Aux classes sociales.
Aux classes sociales, exactement. La reproduction sociale.
Quand on travaille,
aussi.
On a un employeur. C'est une réalité.
Et c'est là qu'on en arrive à la grande distinction entre l'économie qu'il appelle réelle, oui. basée sur le travail, sur oui. ce qu'on produit, sur ce que l'humain produit, et l'économie financière qui, elle, est une affaire de papier. Et il donne, on va l'écouter quelques secondes pour que les gens captent l'énergie de ce personnage-là, Jim Stanford. Là. C'est en anglais, on vous résumera après, là. Mais c'est une espèce d'image en un éclair.
On peut l'entendre ce soir, d'ailleurs.
Qui donne, oui, oui, il va être en conférence, on le rappellera tout à l'heure avec vous à l'UQAM ce soir. Mais tout de suite, Jim Stanford, sur la différence entre des actions de Nortel puis des bouteilles de bière.
People are always telling us to invest in the shares of these companies like Nortel Networks and all these other high flyers. Nortel Networks, the shares were worth $125 each in May 2000. Today, the company's in bankruptcy protection and the shares are worth zero. If you had taken $125, bought beer, drank the beer, and took the bottles back, you'd have more money in your pocket today than buying Nortel shares.
Alors, donc, en mai 2000, les actions de Nortel valaient 124 $ pièce. Si vous aviez pris 124 $ pour vous acheter de la bière en mai 2000, vous feriez plus d'argent en allant revendre les bouteilles vides.
J'aimerais aller derrière cette histoire-là, puis c'est quoi l'intention de Jim Stanford? Écoutez, c'est l'économiste des TCA. C'est quelqu'un pour lequel l'investissement réel en machines, en usines, en ordinateurs, en logiciels, en savoir est crucial pour le bien-être de l'économie. Oui. Et l'investissement financier ne l'est pas. L'investissement financier devrait servir l'économie réelle. Mm-hmm. Or, depuis 10 ans, c'est le contraire qui se passe. Le taux d'investissement dans toutes les grandes économies, hein, pas juste, à part peut-être l'Allemagne, le Japon et la Chine, mais dans les grandes économies nord-américaines, certaines économies européennes, ce taux d'investissement des grandes entreprises est en chute libre.
Oui. Yuri Chassin, vous ne pouvez pas ne pas être un peu d'accord avec ça. Là. Avec les dérapages boursiers, les scandales de transactions financières à haut risque de papiers douteux et tout le reste.
Puis les sauvetages aussi hein, qui s'en sont
absolument.
Découlés, où on
absolument.
Intervient considérablement.
Ils ont mis des états en faillite en intervenant exact. De la mauvaise manière.
Parce c'est que ça. On socialise les pertes. Donc, évidemment, le régime de libre marché, hein, c'est qu'on prend des risques et on peut faire un profit, mais on peut aussi faire des pertes. Et ça incite à la prudence. Et quand l'État dit « vous ne ferez pas de pertes », on vient subventionner finalement la prise de risque inconsidérée. Donc là-dessus, évidemment, là, j'ai une certaine affinité avec…
Une certaine sympathie.
C'est une certaine sympathie avec ces idées-là, mais plus fondamentalement, au cœur, dans le fond, de ce que l'auteur appelle le capitalisme, il y a cette idée aussi, dans le fond, que le capitaliste va investir de l'argent pour faire un profit, mais que ce profit-là, dans le fond, est un peu une exploitation du travail.
Il vient quelque part.
C'est intéressant de voir... j'ai une image, en fait, pour exprimer hein, simplement qu'est-ce qu'on considère comme le travail puis qu'est-ce qu'on considère comme un peu l'exploitation. Finalement, dans un orchestre, par exemple, on dirait, puis là, c'est un peu dans la même lignée populaire.
Prenez un
dépanneur. Juste un petit instant, ce sera pas très long. On dit, ben finalement, les musiciens font la musique. Hein? Donc, le chef d'orchestre, lui, il produit aucune musique. Pourquoi mériterait-il un salaire? Ça fait qu'il y a une espèce de logique un peu populiste derrière cette analyse.
Parce qu'il fait un travail de coordination.
C'est un musicien. Là, on commencera pas une discussion.
Non, exactement. Là, on s'est parlé.
C'est un musicien de l'orchestre, le chef. Mais
comme le chef d'entreprise,
ça, là, je pense que quand on parle des transactions à haut risque et tout, on n'est plus au niveau du chef d'orchestre. On est au niveau du conseil d'administration, de l'orchestre.
Qui s'en mettra encore plein les poches.
Mais on voit dans le fond que c'est ça la pierre angulaire sur laquelle on se base pour dire, ben, il y a vraiment.
Mais la pierre angulaire est un peu plus complexe. En fait, Jim va dire, écoutez, notre économie, c'est, oui, il y a des PME, ça existe, mais le gros de notre économie, c'est des grandes organisations, publiques ou privées. Ces grandes organisations, publiques ou privées, peuvent connaître des dérives. En ce moment, il y a une grande dérive dans les grandes organisations privées. Elles n'investissent plus dans nos vies, dans notre économie. Elles investissent dans du papier. Et il faut, comme population, être conscient de ça. Après ça, les décisions qu'on prend rendues là seront diversifiées.
Mais sur le constat, je pense que vous êtes assez d'accord. C'est quand on arrive aux solutions. Alors, pour, évidemment, Jim Stanford, j'imagine que l'État doit avoir un rôle important à jouer.
L'État a un rôle à jouer, mais là-dessus encore, on est devant un chantier. Jim Stanford prend la peine dans le livre de dire, regardez, là, au 20e siècle, on a tenté toutes sortes d'expériences étatisantes, avec plus ou moins de succès, des échecs horrible dans certains pays. Dans d'autres pays où on a une moins forte présence de l'État, c'est quand même la période qu'on appelle les 30 glorieuses, pas pour rien. L'emploi est fort, les salaires augmentent, la richesse augmente, et l'État intervient massivement, mais de manière, je dirais, mesurée. Par contre, il y a des échecs à cette période-là. Les femmes sont à la maison, dégâts environnementaux horribles, exploitation du tiers-monde. Alors, Stanford va dire, et on le voit à la fin de son livre, on est devant un chantier, il faut repenser la socialisation de l'économie sur des bases qui prennent acte des échecs fondamentaux des Trente Glorieuses et qui prennent acte des échecs fondamentaux des 30 dernières années où là, on a laissé tout aller dans toutes les directions en se disant le marché va résoudre tous les problèmes. Vous allez voir, quand Stanford va parler du marché, il va pas dire qu'il faut éliminer le marché. Il va dire au contraire, peut-être qu'un des problèmes, c'est qu'il y a pas assez de marché dans certains secteurs. On a trois entreprises qui contrôlent un secteur. C'est un marché, ça? Je suis pas sûr. Quand on est dans le Walmart, on est-tu dans un marché? Je pense pas qu'on marche dans un marché dans Walmart. Quand on est au marché Jean Talon, là, je sens que je suis dans un marché. Plein de petits producteurs autonomes, plein de couleurs, plein de vie, toutes sortes d'autres choses qui arrivent que juste acheter et vendre. Alors, comment redonner une place à ça? Comment penser le rôle de l'État de manière intelligente et mesurée? Et comment remettre la finance au service de l'économie?
Youri Chassin, vous êtes devant le même constat là, du gâchis là, actuel. Là. Et pour vous, les pistes de solutions, elles devraient aller où? Là? Où est-ce que ce Jim Stanford fait fausse route et vous, de l'Institut économique de Montréal, vous voudriez aller?
Bien, je pense en fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de constats très, très présents dans notre époque actuelle qui ne sont pas expliqués. Et c'est, quant à moi, malheureux. Donc, on parle, par exemple, hein, d'une l'inégalité centrale au capitalisme, sans expliquer pourquoi, dans le fond, des millions de personnes et des dizaines de millions de personnes se sortent de la pauvreté en Chine, en Inde, au fur et à mesure où on permet davantage de libre-marché. Ceci étant dit, puis il faut le reconnaître, hein, M. Stanford fait un certain nombre de nuances. Il prend, par exemple, position pour une intervention de l'État. Par contre, il dit que l'État, effectivement, est influencé par un certain nombre de groupes, ce en quoi je le rejoins. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement les mêmes groupes, puis les syndicats ont une certaine puissance aussi. Et par exemple,
un là, conservateur
il parle, par exemple, il dénonce le fait que les associations professionnelles, qu'on peut considérer comme des syndicats parmi les plus puissants, limitent l'accès à leur lucrative profession par l'entremise de très strictes règles. Donc là, il montre, dans le fond, là, effectivement, un effet d'une réglementation de l'État qui a vraiment... dans le fond, qui vient empêcher, c'est ça, la possibilité pour des gens sur le marché de choisir leur propre détermination.
Mais en terminant, Youri Chassin, ça prend un petit peu d'État. Là. Si, on l'a vu, là, le marché tout seul va pas est pas assez vertueux pour se remettre...
En fait, on l'a jamais vu parce qu'il n'y a jamais eu d'État absent complètement et donc de marché complètement libre.
Ben, en tout cas, là où il a été au maximum, le dérapage a été assez maximum.
Dans les places financières,
aussi,
le marché est assez libre. Oui. On voit les
effets. Non, absolument pas. Mais là, évidemment, c'est une longue discussion, mais c'est vraiment pas libre. Au contraire, c'est à peu près 3 milliards de dollars en réglementation, en contrôle des milliers de fonctionnaires qui viennent réguler les marchés financiers et des lois qui obligent les banques à prêter à des gens qui n'auraient pas accès à ce crédit
hypothécaire. Au Canada, plus qu'aux États-Unis, très certainement.
Oui,
Non, non, aux États-Unis, plus qu'au Canada.
Mais si le marché financier crée plus vite que son nombre des produits qui échappent à la réglementation, évidemment.
Mais en fait, à la compréhension surtout, je pense que c'est là le problème, à la compréhension des gens.
On va terminer avec ça. On travaille pour la compréhension avec un livre comme ça. Je pense que là-dessus, vous serez d'accord tous les deux. Petit cours d'autodéfense en économie, l'ABC du capitalisme. C'est Jim Stanford, économiste canadien, qui le signe. C'est traduit de l'anglais par Nicolas Calvé, avec des illustrations amusantes et la postface signée par un de nos invités, Éric Pineau. Merci beaucoup, Youri Chassin, aussi, d'avoir pris le temps de le lire. Youri Chassin, donc, qui est à l'Institut économique de Montréal. Bonne journée tous les deux. Merci beaucoup.